Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le réemploi informatique, ou autrement dit le reconditionnement pour la réutilisation, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme une chronique de Véronique Bonnet sur le thème « Dire non à l'informatique des injustes, même une seule fois est une aide », et aussi la chronique d'Isabella Vanni sur son retour d'expérience sur la recherche d'un outil adapté pour les projets de notre groupe de travail Sensibilisation. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 FM en Ile-de-France. En FM, c'est de midi à 17h, puis de 21h à 4h en semaine, de vendredi 21h au samedi 16h, et le dimanche de 14h à 22h. Et c'est 24h sur 24 en DAB+, et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchy, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org, et vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. Nous sommes mardi 23 juin 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Alors je précise que l'émission est diffusée dans des conditions exceptionnelles, hein, suite à la situation sanitaire en France. Toutes les personnes participent depuis chez elles. D'un point de vue technique, nous utilisons l'outil d'audioconférence Mumble, mais la qualité finale dépend fortement des conditions matérielles de chaque personne. Nous vous prions donc de nous excuser pour la qualité audio moins bonne par rapport à la qualité habituelle des émissions diffusées depuis le studio de la radio. Si vous voulez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm, cliquez sur chat et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission Dièse Libre à vous. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Tout de suite, place au premier sujet. Une lecture d'informations et de mise en perspective de la philosophie GNU. C'est la chronique Partagée et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie, vice-présidente de l'April. Bonjour Véronique.
Bonjour Fred.
Alors, GNU, c'est le projet fondateur du logiciel libre, le site c'est gnu.org, et le thème du jour de ta chronique est « Dire non à l'informatique injuste, même une seule fois, est une aide ».
En effet, c'est un texte qui a été très récemment traduit par TradGNU de l'April, à partir de « Saying no to unjust computing, even once is help ». Et si tu veux bien, Fred, je vais commencer par un bref détour au VIe siècle avant notre ère, en Grèce, chez un certain Pythagore. Pythagore, c'est celui qui a inventé le mot, le néologisme philosophie, parce qu'il voulait s'opposer aux sophistes, qui étaient des affairistes. Et je dirais qu'il était libriste à sa manière, puisqu'il défendait la cause de l'autonomie de la réflexion. Il ne voulait pas du prêt à penser. Il voulait qu'aussi bien les mathématiciens que les philosophes se fassent des objections à eux-mêmes, s'interrogent. Et voilà ce qu'il dit. Il dit « Les deux mots les plus brefs et les plus anciens, oui et non, sont ceux qui nécessitent pour être prononcés le plus de réflexion. » Il faut y réfléchir à deux fois avant de dire oui, avant de dire non. Bon, c'est vrai que dans l'enfance, il y a une période où on dit non à tout pour s'affirmer. Systématiquement, on dit non. En grandissant, c'est vrai que dans la vie sociale et professionnelle, on a intérêt à dire plutôt oui, à devenir consentant. Et c'est vrai que le bouton accepter de nombreux sites fait des utilisateurs qui n'ont pas regardé à quoi ils s'engageaient, d'une certaine façon, ceux qui disent toujours oui. L'informatique propriétaire voudrait nous transformer en utilisateurs consentants, ou même nous ôter tout choix, faire en sorte que nous n'ayons plus notre mot à dire. Et on sait bien que qui ne dit mot consent. Alors Richard Stallman, celui qui a dit non en 1983 aux atteintes aux libertés des utilisateurs, commence dans le texte sur lequel porte la chronique, par évoquer l'objectif à atteindre, pour examiner ensuite des moyens. L'on est toujours dans le cadre que j'ai déjà évoqué de l'idéalisme pragmatique. On commence toujours par être intransigeant sur le but, l'autonomie des utilisateurs, pour ensuite se demander, dans tel contexte en particulier, comment faire avec les outils. Donc je lis le début du texte. Notre but final est la liberté numérique pour tous, un monde sans logiciel privateur. Alors c'est vrai que parmi les libristes, il y a ceux qui se fixent le but, comme Richard Stallman, et ceux qui sont dans un refus systématique sans compromis de l'informatique injuste. Ce qu'explique Richard Stallman. Certains de nous, qui ont fait de la campagne pour la liberté numérique un but, rejettent tous les logiciels privateurs. Mais pour autant, est-ce qu'il faut dédaigner les efforts de ceux qui disent non à un logiciel, à un usage? Alors pas toujours, pour commencer, pour essayer, pour voir, pour suivre les conseils que peut donner l'April, par exemple. Et là, Richard Stallman fait l'hypothèse que tout rejet qui va dans un sens émancipateur est bon à prendre. Il y a un malentendu qui voudrait que ce soit tout ou rien, ou encore que l'informatique libre soit à prendre ou à laisser globalement. Or, dire non de temps en temps peut être une aide. Voilà l'argumentaire. Toutefois, en pratique, même un petit pas dans cette direction est à prendre. Une marche d'un millier de kilomètres est faite de nombreux petits pas. Alors, on est à la fois dans un optimisme. Chaque pas a un effet. Chaque fois qu'on dit non à Zoom, chaque fois qu'on dit non à un logiciel privateur, alors quelque chose se passe, ne serait-ce que dans l'esprit de celui auquel on dit non, parce qu'on va l'expliquer, on va dire pourquoi. Si on entre dans cet engrenage, alors il va y avoir des effets désagréables pour nous. Et en même temps, Richard Stallman évoque une marche d'un millier de kilomètres. Bien sûr, la tâche est lourde. Si vous êtes pris dans une toile de logiciels privateurs, vous cherchez sans doute un moyen d'en retirer quelques fils de votre corps. Retirer quelques fils de votre corps. Ceci impacte notre personnalité même, notre être, ce qui est le plus intime, ce qui est le plus subjectif et affecté par les logiciels privateurs. Et donc, il faut retirer les fils. Il faut éviter que cette toile de l'araignée ne nous concerne tout entier. Alors, c'est vrai que savoir dire qu'on ne se connectera pas avec Zoom ou Skype pour alerter les autres de cette toile de l'araignée qui noue ses fils pour s'emparer des données, c'est faire avancer l'autonomie. WhatsApp, Facebook, Slack, Google Docs peuvent faire l'objet de refus ponctuels, mais qui sont déjà constructifs. Idem pour Eventbrite, Meetup. Et c'est vrai que parfois, il y a des effets de groupe qui font que si on est le seul à dire que ben non, désolé, on ne pourra pas s'inscrire à cet événement parce qu'il faut passer par Eventbrite, ou alors si on est les seuls à dire que ben non, on ne pourra pas assister à cette réunion parce que pour ça, il faudrait se connecter à Zoom et qu'on n'en a aucune envie. Il est important, et là c'est le texte qui continue, d'adopter une fermeté bienveillante parce que les refus s'additionnent, se renforcent. Faire remarquer certainement que tel logiciel peut avoir des effets indésirables est plus compliqué que dire oui directement. Et peut-être que si on a réussi à dire non, on pourra dire non une seconde fois. Ce sera plus simple que de le dire une première fois. Donc on voit que Richard Stallman désigne ici toute une série de logiciels et de plateformes dont les noms paraissent inoffensifs et positifs, une grande partie de la population. Ce qui veut dire que chaque nom, même s'il est isolé, même si c'est pour voir ce que ça fait quand on refuse d'entrer dans ce jeu, a un effet qui est intense. Déjà, ça peut surprendre. déjà y avoir quelque chose d'un peu surprenant de la part de celui qui renonce à des outils qui ont l'air si anodins, si conviviaux et si utiles, et il est certain qu'il faut mettre les formes. Par conséquent, dites à quelqu'un « Merci de m'avoir invité, mais ou Skype ou WhatsApp est un programme liberticide qui épie ses utilisateurs. Je veux vivre dans un monde différent. Refusant d'utiliser ce programme aujourd'hui, je fais un pas dans ce sens. » Alors c'est vrai que c'est encore mieux si on peut faire une contre-proposition. Et c'est vrai que pendant ces mois où je faisais cours à distance à mes étudiants, il m'est arrivé plusieurs fois de proposer des alternatives libres. C'est vrai que si on est capable de faire une contre-proposition, si on est capable de dire à l'autre qui nous interpelle, si je n'utilise pas Zoom, qu'est-ce que je peux faire, hein ? Il est certain que là, l'autonomie, la cause de l'autonomie, avance encore davantage. Si on est capable de dire à l'autre, si nous avions cette conversation sur un autre logiciel, je pourrais me joindre à vous, c'est un premier pas, et après il y en aura un autre, et puis un autre. Dire que c'est pour respecter soi-même, c'est dire à ceux auxquels on dit non qu'on les respecte, que s'ils font comme nous, alors ils se respecteront eux-mêmes encore davantage. D'où cette conclusion, non seulement vous aurez gagné en liberté, mais vous aurez également aidé votre communauté en lui faisant prendre conscience de cet enjeu. Et donc, allez sur le Chapril, utilisez le Mumble de l'April, le Jitsi de l'April. Il se trouve que l'un des slogans de l'April a été « Liberté, je code ton nom ». Fred, je ne sais pas ce que tu en penses, et bien sûr tu peux me dire non. Moi je dirais volontiers « Liberté, dans mes pratiques et dans mes usages, en ton nom, j'essaie dans la mesure du possible, le plus souvent, de dire non à ce qui me dépossède de moi-même ». Et c'est pourquoi il est bien d'avoir toujours en tête un logiciel alternatif, se tenir tout à fait au courant de ce qui, dans le monde du logiciel libre, avance, permet des supports pédagogiques qui ne sont pas offensifs, qui ne sont pas dangereux pour nos étudiants. Et non seulement liberté, je code ton nom, mais en ton nom, je n'hésite pas à dire non.
Bah écoute Véronique, je suis tout à fait d'accord et c'est une belle conclusion de chronique. Tu cites le Chapril, donc le site c'est chapril.org, hein, c'est, vous retrouverez des services libres et loyaux que vous pouvez utiliser librement. Donc par exemple, nous là actuellement nous utilisons un serveur Mumble qui est un serveur d'audioconférence, bah, vous pouvez utiliser le même sur le Chapril si vous avez envie de faire des conférences, par exemple simplement des discussions. Jitsi c'est de la visioconférence, on a reçu le créateur de Jitsi il y a quelques semaines dans Libre à vous, vous retrouverez les podcasts sur causecommune.fm et sur april.org. Également tu as cité TradGnu. Alors TradGnu c'est un de nos groupes de travail qui traduit donc la philosophie GNU, donc les textes qui sont en anglais sur gnu.org, on les traduit en français. Donc n'hésitez pas à rejoindre ce groupe, c'est un groupe qui est ouvert à toute personne, hein. Vous retrouverez les références sur april.org et causecommune.fm de la même façon, et nous en reparlerons la semaine prochaine dans l'émission consacrée justement à l'April, la deuxième édition de Au cœur de l'April. Ben, Véronique, en tout cas je te remercie pour cette belle chronique qui clôt la saison 3 en tout cas pour tes chroniques, et on se retrouve à la rentrée pour la saison 4 des chroniques, donc partagez, bon ?
Avec grand plaisir Fred, très bonne journée à toi.
Bonne journée, passe un bel été. Alors nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Grand Horary par Stellar Drone, on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause-commune.fm 93.1.
Nous venons d'écouter Grand Horrery par Stellar Drone, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, donc CC BY. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org, et sur le site de la radio, causecommune.fm. Je précise donc que Stellar Drone est un compositeur originaire de Vilnius en Lituanie, et le site auboutdufil.com sur lequel on a trouvé cette musique nous dit que cet artiste n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il a déjà composé une dizaine d'albums dans le genre depuis 2007. On pourrait qualifier son style musical de drone ambiant ou encore soundscape, sous-genre de la musique électronique, je cite auboutdufil.com. N'hésitez pas à consulter ce site pour trouver de la musique libre de qualité. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer maintenant au sujet principal. Alors, notre sujet principal va porter sur le réemploi informatique avec nos deux invités, Isabelle Carrère d'Antanac et Joyce Marcol de l'atelier Orditux Informatique. Isabelle, Joyce, vous êtes bien avec moi ?
Absolument. Avec nous.
Oui, je suis là.
Ok, super. Alors je précise en introduction que Isabelle d'Antanac anime aussi des émissions sur Cause Commune et notamment Un Coin Quelque Part. Je crois que c'est le deuxième et quatrième lundi à 14h. En tout cas, vous trouverez toutes les informations évidemment sur le site causecommune.fm. Donc c'est une collègue de radio, Isabelle. Et Antanac d'ailleurs est situé juste à côté, enfin les locaux d'Antanac sont situés juste à côté des studios de la radio, même si aujourd'hui, comme je l'ai expliqué en introduction, on intervient chacun de chez soi. Enfin, sauf en fait Isabelle qui est au studio, en fait, exceptionnellement. Alors, donc, on va parler aujourd'hui de réemploi informatique. Alors, j'emploie ce terme-là, même si dans notre première, très rapidement, je pense qu'Isabelle va employer un autre terme. Si vous souhaitez participer à notre conversation ou poser des questions, n'hésitez pas à venir sur le salon web dédié à l'émission, hein, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon dièse, libre à vous. Alors déjà, première question, on va commencer par Isabelle, une présentation personnelle et un petit peu de la structure en quelques mots. Isabelle Carrère.
Oui, merci beaucoup Fred de cette invitation. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Présentation de l'association. Oui, Antanac, c'est une petite asso qui est dans sa sixième année d'existence là et qui a été basée. Alors, je suis vraiment très contente de ce qu'on vient d'entendre, de ce que Véronique a dit, a décrit dans sa chronique là juste avant la musique, parce que c'est un des axes vraiment très forts de au moment de la création d'Antanac, que de se dire que voilà, j'aime l'idée de l'idéalisme pragmatique d'une part, et puis la capacité à dire oui et non, puisque la question du discernement que tout un chacun, chacune peut avoir en face des outils ou de la technologie ne peut se faire que s'il y a une vraie appropriation. Et donc l'appropriation du numérique pour tous et toutes, c'est un des axes essentiels d'Antanac. Le second étant la lutte contre l'extractivisme forcené et les détroiseurs, on y reviendra. Et le tout soutenu grâce évidemment au libre qui permet tout ça. Voilà, pour faire bref. Donc c'est une association de quartier, mais qui voit venir vers elle des tas de gens beaucoup plus loin et avec diverses activités qu'on pourra développer un peu plus tard.
Bah écoute, merci. On précise que donc le quartier, c'est le quartier du 18e, rue Bernard Dimet, donc juste à côté des studios de la radio, mais on y reviendra. De ton côté, donc Joyce Marcol de l'atelier Orditux Informatique.
Oui. J'ai 61 ans, j'ai commencé à 40 ans passés à utiliser un ordinateur au quotidien. L'ordinateur m'a bien embêtée au début, j'ai mis tous les problèmes sur le compte du système. J'ai décidé de passer à Linux, dont j'avais entendu dire que c'était stable, que c'était fiable, que c'était un truc pour les professionnels. Je me suis dit professionnel, je vois pas trop. Puis un jour, je me suis retrouvée dans un magasin de la presse en train d'acheter deux magazines Linux, hein, et grâce aux communautés du logiciel libre en ligne, je me suis retrouvée 3 mois plus tard sous une distribution Linux. Par la suite, j'en ai essayé plusieurs pour des raisons différentes, par curiosité, par goût de la découverte, pour essayer d'avoir quelque chose qui correspondait mieux à mes ordinateurs, et je me suis mise à en reconstruire. Entre-temps, j'ai évolué, j'ai eu des opportunités de rendre des services, des prestations de services numériques et informatiques. J'ai toujours gardé en tête que le libre, c'est pas juste de la sécurité, de la stabilité, c'est aussi des gens qui s'entraident de manière spontanée et naturelle au travers de la toile et en réel. J'ai assisté à des rencontres in situ, dans un garage au début, en Bourgogne. C'était une fois par mois le dimanche. J'ai assisté à des rencontres à diverses reprises, dans diverses conditions. Une fois dans un éco-village, je m'intéressais et j'avais un diplôme en bio, fraîchement acquis, agriculture bio. Et puis, au fil du temps, j'ai complètement plongé dans la marmite. Il y a 2 ans, après avoir été plusieurs années freelance en portage salarial, toujours dans le service informatique et numérique fortement orienté logiciel libre, à ce moment-là, je me suis installée à mon compte en 2018. J'ai pu dépanner beaucoup plus de gens, en faire passer beaucoup plus au libre. J'ai aussi initié et co-créé l'association Linux Ariège en 2016. L'association a eu un temps où ça a bien marché. Ça s'est un peu endormi à la suite de diverses problématiques, accès facile à une salle, accès à Internet, qui ont mis beaucoup de temps à se résoudre. Et puis, beaucoup de personnes de l'association se sont retrouvées aussi un peu trop prises par leurs activités professionnelles et personnelles. Et le magasin, la boutique atelier, eh bien, ça y a fait beaucoup pour inciter les gens à passer au libre. Ils ont vu que ça pouvait être simple, que ça fonctionnait, et c'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent que ce soit simple et que ça marche. C'est mon leitmotiv. Et au final, quand ils s'aperçoivent que c'est simple et que ça marche, après, ils posent les autres questions. Il m'est arrivé d'avoir quelqu'un qui a
Je me permets de te couper, Joyce. Oui, Joyce, je me permets de couper. Là, c'est l'introduction de présentation. On ne va pas rentrer tout de suite dans les arguments. On va y revenir après.
Vas-y.
Sinon, je pense que tu peux faire l'émission toute seule, ce qui serait très bien. Mais...
Non, mais vas-y, je t'écoute. Je suis...
Voilà, et donc on va préciser quand même, donc Antanax c'est dans le 18e Paris, et l'atelier Orditux Informatique c'est à Palmier, donc c'est dans le sud, au sud de Toulouse,
oui.
Donc deux régions totalement différentes. Je vais aussi préciser que effectivement tu as souvent cité le nom Linux qui est un noyau de système d'exploitation, nous on préfère, et la chronique de Véronique Bonnet en parle souvent, appeler le système du nom GNU Linux, parce que ça reconnaît le rôle important que joue la liberté informatique dans ce projet, dans la construction de ce système et des communautés, et ça aide le public à reconnaître l'importance pratique de ces idéaux, et je renvoie d'ailleurs à la chronique de Véronique Bonnet sur l'importance d'utiliser cette domination GNU Linux, je crois que c'était fin avril, le 28 avril sans doute 2020. Voilà, c'était juste une précision. Alors, maintenant on va rentrer un petit peu dans le cœur du sujet sur le réemploi informatique, et avant de parler de la partie logiciel libre qui est évidemment fondamentale pour nous, j'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'est le réemploi informatique, est-ce que c'est le bon terme d'ailleurs, quels sont les principes, quels sont les types de structures qui interviennent, voilà, on va commencer par Isabelle Carrère. Isabelle.
Alors oui, c'est intéressant effectivement de redonner quelques définitions dans les termes, parce qu'on utilise beaucoup, un peu partout, le réemploi ou bien la réutilisation, et nous on parle aussi de reconditionnement, et puis après il y a le recyclage. Ça fait beaucoup de termes tout ça. En fait, nous très souvent ce qu'on dit c'est que réutiliser, ça permet en fait d'utiliser une deuxième fois un matériel aux mêmes fins que celles pour lesquelles il a été créé. Donc, un ordinateur, si je fais un travail de reconditionnement, c'est-à-dire que je le répare, ou bien je change quelques pièces, ou bien je change son système d'exploitation, ou etc., là, je fais de la réutilisation. Le réemploi, pour nous, ça va plutôt être d'arriver à employer à nouveau des pièces pour autre chose. D'accord. Voilà. Donc c'est, mais à la limite, peu importe. Ce qui est très important là de voir, c'est que, en tout cas, chez Antanax, ce qu'on essaye de pousser vraiment, c'est de dire et de promouvoir le fait que plus on arrive à réutiliser plusieurs fois de suite un ordinateur, plus on agit à la fois pour que les gens prennent conscience, toute personne puisse prendre conscience de ce que on n'a pas besoin toujours d'avoir le dernier appareil, dernier cri. Ça dépend de l'utilisation qu'on en a. Et que deuxièmement, on évite ainsi également la lutte, ce que je parlais tout à l'heure, la lutte contre les D3E, c'est-à-dire en fait les déchets électroniques, ça permet aussi de redonner une vie plus longue à des pièces qui sinon se retrouvent malheureusement dans des déchetteries, à des tas d'endroits, forment des amalgames avec d'autres produits et des matériaux très très rares. Et en fait, c'est ça la vraie question, c'est d'arriver à bien connaître comment, de quoi est fait un ordinateur. Et c'est ce qu'on commence toujours par faire avec des personnes qui ont envie de suivre ces choses-là avec nous à Antanac. C'est de bien expliquer, de montrer de, par l'expérience, hein, par le démontage d'une unité centrale ou d'un portable, de quoi c'est fait.
D'accord. Joyce, est-ce que tu veux compléter sur cette partie introductive au niveau de la terminologie ou peut-être des concepts de base ?
Je suis d'accord, je suis totalement d'accord dans les grandes lignes. L'importance de préciser que, par exemple, le recyclage, c'est beaucoup plus cher sur le plan de l'écologie que le réemploi et que le reconditionnement. Rajeunir un ordinateur, rénover un ordinateur, le faire durer, c'est ce qui coûte le moins cher pour la planète, c'est aussi ce qui est le plus économique au final pour le porte-monnaie du consommateur.
Absolument.
Après, au niveau du monde du reconditionnement, il faut connaître deux sites web importants qui ne sont pas si connus que ça, ordi3-0.fr, qui est un site initié par un acteur du gouvernement. C'est pas le gouvernement, c'est pas l'État, c'est un des acteurs de l'État qui a initié cela il y a longtemps. Il y avait Ordi 2.0, il y a maintenant Ordi 3-0.fr, il y a un annuaire avec des points sur la carte de France. Cet annuaire gagnera à être encore plus fourni par le nombre de personnes qui sont donc dans le reconditionnement d'ordinateurs. Et puis, il y a au niveau du web un endroit très intéressant, planetoscope.com, où on peut lire des statistiques sur le gaspillage des ordinateurs. Les statistiques sont un petit peu anciennes, elles datent d'il y a au moins 3-4 ans, mais c'est quand même intéressant. Et enfin, pour toutes les personnes qui, comme moi, sont installées en nom propre ou en entreprise, nous pouvons être au commerce, nous pouvons aussi être à l'artisanat. Je suis donc aux deux, à la Chambre des métiers également. Les chambres des métiers en France ont créé des plateformes avec également des cartographies où on peut trouver les coordonnées des personnes qui font de la réparation tout domaine confondu.
Mais alors, Joyce, du coup, si je peux me permettre, si on en est à donner des adresses et des liens Internet, on peut aussi citer celui qui s'appelle Don d'Ordi, tout simplement, et qui permet de voir sur le territoire français notamment, mais aussi ailleurs, quelles sont les structures dans lesquelles, auprès desquelles on peut se procurer, avec des moyens différents selon les modèles économiques ou pas des structures en question, mais on peut se procurer des ordinateurs libérés, donc reconditionnés, oui, oui, en réutilisation et majoritairement avec des systèmes d'exploitation GNU Linux. Voilà.
Donc c'est donordi.fr, donordi.fr, c'est
ouais,
bien ça.
C'est cela même.
Je vais juste vous préciser qu'on mettra toutes les références évidemment sur le site de la radio, sur causecommune.fm pour les personnes qui ne peuvent pas noter toutes les références.
Bien sûr.
Mais en tout cas, votre échange déjà introductif montre qu'il y a différents types de structures qui interviennent donc sur le reconditionnement pour la réutilisation et que on peut trouver voilà partout en France et même évidemment partout dans le monde des structures qui font le reconditionnement. Tu voulais rajouter quelque chose, Isabelle ?
Oui, parce que du coup, on n'a pas parlé et là, Joris vient de parler du recyclage. Pour bien expliquer, là aussi, c'est important de comprendre qu'est-ce que c'est que le recyclage. Recyclage, c'est ce qui permet de, une fois qu'on a bien séparé des matières, par exemple, si j'enlève complètement tout ce qui est du plastique, je mets à part le métal, les objets ferreux, les autres matières, etc. Là, on peut recycler des matériels. Et c'est pour ça que c'est vrai, je suis d'accord avec ce que disait Joyce, c'est plus coûteux, plus cher, et beaucoup de structures, d'organismes, y compris les grandes boîtes qui s'occupent théoriquement des D3E, parfois rechignent à vraiment faire un démontage très très fin. Et donc on se retrouve, c'est pour ça que je parlais d'amalgame tout à l'heure, où on mélange en fait des choses qui ne devraient pas rester ensemble pour le recyclage. Et ne font pas un bon tri en fait des déchets. C'est une vraie problématique dans la suite pour le recyclage, alors qu'on le fait très bien par exemple pour l'automobile, mais ça a pris du temps, ça a pris 30 ans à se faire dans l'automobile, ça ne se fait pas encore de manière suffisamment correcte avec les ordinateurs, les serveurs, etc.
Oui,
avant de passer la parole à Joyce, juste préciser que D3E, c'est déchets d'équipement électrique et électronique, pour les personnes qui se posent la question. Joyce, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette partie introductive, donc sur le reconditionnement ?
Nous pouvons faire état que le site web greenit.fr fait un énorme travail également et est totalement pro-libriste. C'est important de le dire parce qu'ils ont énormément de chiffres très très intéressants. Donc leur rôle, c'est de retransmettre des chiffres, de publier de l'information sur tout ce qui permet de faire bien et mieux en matière de réusage, en matière de faire durer les choses quand il s'agit d'outils numériques et d'outils informatiques.
Alors je vais préciser, comme tu le dis, donc GreenIT, on a eu le plaisir de recevoir Frédéric Bordage, donc le fondateur de GreenIT. Alors GreenIT, c'est un peu la communauté des acteurs et actrices du numérique responsable dans les pays francophones, et on l'a reçu dans l'émission du 17 septembre 2019, justement sur le projet de loi contre la lutte relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Donc évidemment, le podcast est en ligne. Alors avant de passer au deuxième point, c'est-à-dire on va dire les arguments pour le public, pour la société, sur le salon web de la radio, il y a une question. Alors évidemment, vous pouvez nous rejoindre sur le salon web, hein, vous allez sur causecommune.fm, bouton chat et salon dièse libre à vous. Donc Marie-Odile demande, ce reconditionnement, c'est ouvert à tout le monde, faut-il justifier de quelque chose? Alors je suppose que tu, Marie-Odile, parles pas pour le grand public, c'est est-ce que n'importe qui peut, ou est-ce que ou la question concerne les entreprises, je ne sais pas en fait.
Si Marie-Odile nous écoute.
Ben vas-y Joyce, Joyce Marple.
Je peux y aller?
Vas-y.
Quand je me suis inscrite sur Ordi 3.0, j'ai répondu à tout un questionnaire qui est relatif à la charte, et notamment ce qui est important pour les personnes qui donnent des ordinateurs pour que ceux-ci soient réutilisés, soient remis à neuf. Ce qui est important pour eux, c'est l'assurance que leurs données ne seront jamais récupérées, récupérables. Donc, il y a une question concernant le logiciel ou les logiciels utilisés pour effacer les disques durs.
D'accord, effectivement, c'est moi j'ai commandé des ordinateurs récemment sur un site justement qui fait ça, qui est Ecoder, un ordinateur occasion, et sur leur site ils précisent effectivement qu'ils utilisent un outil spécialisé pour l'effacement des données. Alors on va le temps avance, hein, on va passer au deuxième point qui est un petit peu les arguments pour le public, la société. En préparant l'émission, vous m'avez parlé d'écologie, vous m'avez parlé de coûts, vous m'avez parlé de liberté. Voilà, quels sont les arguments forts pour le grand public là? Alors, je m'adresse vraiment à la personne qui veut utiliser ou se procurer un ordinateur ou un téléphone mobile, on y reviendra tout à l'heure un petit peu sur la différence. Quels sont les arguments forts pour le public? Joyce Marcol.
Alors, après, les personnes qui vont se procurer un ordinateur, c'est une question où il faut préciser, veulent-ils un ordinateur neuf ou un ordinateur d'occasion? S'ils veulent un ordinateur neuf sous Linux, ils peuvent trouver de très très bons appareils chez divers prestataires en France, chez un prestataire en Suisse. Il y a du choix parmi, on va dire, peut-être 4, 5 ou 6 professionnels qui sont totalement aguerris pour procurer des PC faciles à réparer soi-même, faciles à remettre en état et où le suivi des pièces est assuré pendant plusieurs années. Quand il s'agit de matériel d'occasion, de matériel de réemploi, nous avons également des entreprises qui sont spécialisées, qui ne font que ça. Par exemple, si on prend l'exemple des ateliers du bocage, bon ben eux, ils peuvent avoir quelqu'un qui est formé en 3 jours pour remettre en état quelque chose comme 400 ordinateurs par mois. C'est énorme, c'est monumental. Un petit atelier comme le mien, j'ai fait une statistique parce que je ne fais pas que de la réparation, du réemploi et de l'installation de système. Je fais aussi de la formation. Je reçois aussi des personnes qui viennent pour surfer sur Internet qui se retrouvent automatiquement sous Linux. Ils ne le savent même pas. Ils veulent un navigateur web, c'est tout. Et faire de la démonstration, etc. Et au final, sur la première année, juste moins d'une centaine d'ordinateurs qui sont partis sous Linux, soit en réparation, soit en revente, ça a représenté quelque chose en prenant justement les chiffres fournis par GreenIT et en faisant un calcul, plus de 28 tonnes d'équivalent carbone.
Donc selon toi, l'aspect vraiment écologique, impact environnemental est l'un des critères important pour le public qui s'adresse à du reconditionnement, du réemploi?
Eh bien, c'est pas le tout premier critère. Le tout premier critère pour eux, il faut que ce soit simple et que ça marche. Le deuxième critère, il faut que ce soit économique. Et en matière d'informatique, ce que je peux constater avec tous les chiffres que j'ai lus, avec tous les calculs qui ont été présentés, GreenIT et d'autres, c'est justement que économie rime avec écologie, ça va de pair.
D'accord. Isabelle, de ton côté ?
Alors, l'expérience qu'on a à Antanac depuis plusieurs années, c'est que, outre le fait qu'effectivement les gens s'habituent très 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 vite à utiliser un système d'exploitation GNU Linux ou des logiciels libres sans aucun souci, on voit que les personnes qui viennent avec une volonté soit d'avoir un nouvel ordinateur mais reconditionné, soit qui viennent nous demander de les aider à passer à autre chose avec leur propre ordinateur, s'aperçoivent vite du fait que dès lors qu'on a pu réparer quelques pièces, rajouter un peu de mémoire vive, etc., on a immédiatement une meilleure performance dès qu'on a mis un système d'exploitation libre. C'est-à-dire que là où, par exemple, le Windows 10, il va falloir déjà 40 gigas, on n'a rien fait encore, mais il y a déjà 40 gigas du disque dur qui sont utilisés, alors qu'une distribution, elle va être, 1, 2, 3 grands max pour certaines, pour les plus gourmandes. On a déjà des choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment aidantes pour le reconditionnement grâce au libre. C'est-à-dire que c'est un vrai argument qui est, je veux garder ma même machine, par exemple. On a beaucoup de gens qui viennent comme ça, mais là, du coup, comment je peux faire? C'est trop long. Je voulais pas Windows 10, en fait, mais en fait, c'est comme si j'avais été forcé pour le mettre. Enfin, des gens ont tous des tas d'histoires diverses et variées comme ça, sur des mises à jour un peu fallacieuses qu'ils ont faites sans savoir qu'ils étaient en train de le faire, en fait. Et s'aperçoivent que, du coup, ça marche pas avec la machine qu'ils avaient. Donc, parfois, le réemploi ou la réutilisation, elle vient de la vie des gens et de la vie de l'ordinateur. La relation avec d'une personne avec son ordinateur, c'est vraiment un truc très intéressant qu'on analyse et qu'on voit avec des tas de gens. Ceux qui viennent en déjà disant, je voudrais un ordinateur autrement, il y a la raison économique et ça, on va y revenir, parce qu'à Antanac, par exemple, nous, on se positionne sur la chaîne du don. De la même manière que ce sont des entreprises et ou des particuliers qui nous donnent du matériel, on travaille dessus, soit le noyau des membres actifs de l'association, soit avec d'autres gens également. Et ensuite, on donne ces ordinateurs reconditionnés, réparés, etc., à des adhérentes. Et donc, cette chaîne-là, elle est, d'un point de vue économique, évidemment qu'elle est appréciable et que les gens l'apprécient, mais aussi parce que on a tous à y gagner d'un point de vue environnemental, d'un point de vue de l'environnement dans lequel on veut vivre demain. Est-ce qu'on veut continuer à promouvoir, en achetant du neuf, des destructions phénoménales à la fois, et quand je parle de nature, c'est également les hommes et les femmes qui y vivent, hein, c'est pas que la nature, les arbres et les oiseaux, c'est aussi les gens sur des territoires plus ou moins proches de nous ici en France, qui sont expulsés en quelque sorte de leur terre parce qu'on va y faire une mine pour avoir les matériaux qui sont nécessaires pour avoir des ordinateurs neufs et très beaux et très fins et très plats et très légers, etc. Donc c'est tout ça. Je pense qu'il y a une vraie meilleure conscientisation là maintenant de ces événements, de ces sujets-là. Et ça, c'est le début de la chaîne, l'extractivisme. Et puis à l'autre bout, il y a donc les D3E. Les déchets et des pièces qui se retrouvent n'importe comment ou qu'on envoie très loin de nous pour qu'elles soient démantelées parce que chez nous, ça coûte trop cher. Enfin, voilà, c'est toute cette chaîne-là qu'on essaye de mettre en exergue et en pratique, Antanac. C'est-à-dire comment on fait pour que réellement on arrive à être dans d'autres usages et d'autres pratiques. Et le libre est vraiment un atout là-dessus.
Alors justement, on va y revenir après sur la pratique de vos structures. On va rappeler que l'extractivisme, c'est l'exploitation massive des ressources de la nature. Hein.
C'est ça.
Donc on a bien compris effectivement les aspects, les arguments. Alors j'ai juste une précision, parce que quand Joyce est intervenue tout à l'heure sur les ordinateurs neufs, elle disait que c'était facile de se procurer des ordinateurs neufs, des systèmes libres, etc. Je vais quand même rappeler aujourd'hui que se procurer des systèmes d'exploitation, des ordinateurs et des systèmes d'exploitation préinstallés avec du libre, c'est juste impossible aujourd'hui, parce que la vente forcée existe toujours, même si la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que ce n'est pas une pratique abusive déloyale, ça reste aujourd'hui très compliqué de se procurer un ordinateur préinstallé avec du logiciel libre. Les gens qui vont dans n'importe quel magasin aujourd'hui, c'est préinstallé avec du Windows ou du Mac. Voilà, c'était juste une précision. Alors, on va revenir un petit peu maintenant sur vos structures, comment vous faites en pratique. Et j'ai cru quand même comprendre dans vos introductions respectives que le choix du logiciel libre était un choix fondateur pour la libération, entre guillemets, des ordinateurs et des pratiques. Joyce, est-ce que c'est le cas ?
Oui, tout à fait. Tout ce que disait Isabelle m'a rappelé pas mal de choses dont je peux parler maintenant. Lorsque j'ai débuté, je voyais surtout la nécessité d'avoir un ordinateur fonctionnel et qui n'ait pas dératé pendant l'utilisation. Mais je me suis dit, une fois que j'étais sous Linux, je me suis dit, ça c'est formidable, il n'y a pas de problème de sécurité, donc je ne vais pas avoir besoin de faire la chasse aux logiciels malfaisants, aux malwares, je ne vais pas avoir besoin de prendre du temps pour protéger le château et chercher les intrus qui rentrent, je vais pouvoir prendre le temps d'apprendre. Et au final, on gagne un temps phénoménal avec un ordinateur sous Linux pour plusieurs raisons. D'abord, il y a beaucoup de familles de distribution. Il y a un choix qui permet d'adapter l'ordinateur et le système l'un à l'autre ainsi qu'à l'utilisateur en fonction de ce que l'utilisateur veut faire. Bon, je vais donner un exemple extrême. Demain, il y a un gars, il me dit « Non, mais moi, je produis de la musique, j'ai besoin de Cubase et puis mon ordinateur, ben voilà, c'est ça. Et puis ça, ben, il y a 3 gigas de RAM et puis 3 gigas de mémoire vive et puis bon, un disque dur de 120 gigas, admettons, ou 160 gigas. » Je dis « Oui, d'accord, oui, mais non. Moi, je peux pas intervenir dans ces conditions-là, c'est pas possible. Par contre, si la personne me dit « Oui, c'est compliqué, je suis pas bon en informatique », je dis « Bon, ben, vous voyez, cet ordinateur-là, alors on a des choix dans les systèmes Linux, on a Antix, on a Ubuntu, on a Debian, on a encore Mandriva et Magia, on a un choix phénoménal. Tout le problème, pour l'utilisateur final, c'est qu'il n'y connaît rien et il a besoin qu'on l'aide à choisir en fonction de ce qu'il fait, en fonction de l'ordinateur qu'il a et en fonction de l'aide qu'il pourra trouver auprès de chez lui, près de chez lui, quand il aura ce système en main. Quand je fais passer quelqu'un à Linux, à GNU Linux, je lui offre une heure à une heure et demie de formation avec la prestation de service. De la sorte, je suis sûre que la personne ne va pas se sentir perdue. Elle va se sentir en familiarité, en confiance avec son ordinateur rénové. Ensuite, il y a des ordinateurs pour lesquels j'ai fait un article. J'ai eu entre les mains un appareil, un portable Toshiba de 2008 que j'ai rajeuni. J'y ai changé la mémoire, j'y ai changé aussi le processeur, et puis j'ai mis un support de stockage moderne rapide, un SSD, grâce à quoi maintenant, avec un système super léger dedans, eh bien une dame qui n'avait plus d'ordinateur fonctionnel peut s'en servir tous les jours et elle doit revenir dans quelques jours pour entamer une série de formations, car à 70 ans passés, elle n'avait jamais vraiment touché à l'ordinateur.
D'accord. Donc on comprend bien que ce que tu vas toi en tant que prestataire, tu vas ce que tu factures entre guillemets, enfin non, ce que tu factures c'est l'installation, le reconditionnement de l'ordinateur, l'installation du système, et tu offres en plus une heure de formation gratuite donc pour que la personne s'y mette. Et après tu peux faire
en
des
fait,
formations.
En fait, dans ce cas-là, excuse-moi de t'interrompre, dans ce cas-là, l'ordinateur je l'avais eu gratuitement, j'ai fait les frais dessus et je l'ai vendu. Cette dame a été intéressée, je lui ai fait essayer, elle l'a trouvé bien. Donc j'ai vendu ça à un prix très raisonnable, puisque j'avais changé le processeur, etc. Et au final, elle est repartie très contente. J'ai vendu l'ordinateur, mais en fait, je me suis payée, j'ai payé les services que j'ai mis dessus, comme si on me l'avait apporté, comme si on me l'avait confié pour le remettre en état.
D'accord.
Mais c'est pareil, que la personne achète un ordinateur sous Linux ou qu'elle le fasse passer à Linux, j'offre systématiquement un cours pour que la personne puisse commencer avec. Ce cours comportera des informations telles que comment on installe un programme, comment on met à jour, comment on désinstalle un programme, comment on range ses fichiers, comment on s'y retrouve, comment on trouve des choses dans les menus. Et si les menus, c'est trop compliqué, ça arrive, eh bien, je vais lui mettre des lanceurs rapides sur le tableau de bord, ou si elle veut vraiment des icônes sur le bureau, elle aura des icônes sur le bureau. Tout ce qui fait que la personne va pouvoir s'en sortir au quotidien sans se sentir prise en défaut.
D'accord, parfait. C'est tout à fait compréhensible. De ton côté, Antanac, alors Antanac, toi, comment ça fonctionne à avec le public qui vient te voir pour se faire reconditionner un ordinateur ou acheter. Voilà, comment ça se passe?
Alors, on est assez proche, en fait, en écoutant Joël, je me dis c'est à peu près les mêmes choses que nous faisons. Enfin, en tout cas, sur une base. Nous avons une base commune d'activité avec la grosse différence que nous, on n'a pas l'axe économique, puisque donc à Antanac, on ne vend rien. On est pour le moment, en tout cas, on n'est pas du tout sur un modèle économique. Enfin, il n'y a pas d'argent entre nous, à part si une cotisation des membres, comme toute association, bien sûr. Et donc, pour être dans cette logique-là, il faut adhérer à l'association. Mais l'adhésion est libre et on n'a jamais... en fait, on n'a jamais fait, voilà, dit à quelqu'un, ben non, tu pourras pas avoir d'ordi parce que t'as pas d'argent pour le faire. Donc, les gens font ce qu'ils peuvent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est là-dedans aussi. C'est-à-dire que, on a d'une part ouvert une salle qu'on appelait la salle OLA, ordinateur en libre accès accompagné, dans laquelle nous avons mis une douzaine de postes. Les gens peuvent, n'importe qui peut venir et utiliser. Chaque poste a une distribution différente. Il y a effectivement, je ne vais pas les reciter puisque je l'ai fait tout à l'heure, mais on a, voilà, chaque poste est différent de manière à ce que la personne qui vient se rende compte que bah, même si elle va sur ce poste-là ou plutôt sur l'autre, etc., elle ne va pas être perdue. Elle va retrouver majoritairement des icônes qu'au bout d'un moment elle va connaître et donc il n'y a plus l'angoisse de oh là là, je ne retrouve pas les choses que j'avais vues déjà une fois en formation. Non, pas du tout. Les gens en fait s'y retrouvent très très bien. Et puis on a beaucoup de publics qui n'ont en fait jamais, qui n'avaient jamais utilisé un ordinateur et qui, pour qui c'est la première fois. Donc, et pas simplement à 70 ans, hein, on a des tas de gens qui viennent et qui ne sont pas, qui étaient éloignés, comme ils disent, les politiques, du numérique. Donc ça, c'est une première chose. On a des permanences d'écrivains publics. Alors, ça n'a rien à voir avec notre sujet, mais juste, c'est pour dire que ça permet aussi une entrée. C'est-à-dire que quand on vient d'abord pour être aidé, pour faire une actualisation Pôle emploi ou pour faire une démarche administrative des impôts ou pour la préfecture ou que sais-je, on passe par là et puis petit à petit, la fois d'après où on revient, bah, peut-être qu'on va faire soi-même les choses. Et voilà. Donc, on accompagne aussi les gens sur une trajectoire, puisqu'un des objectifs de l'appropriation numérique, il est là. Il est aussi de pouvoir faire les choses soi-même, en se sentant autonome, en se sentant pas complètement perdu. Et puis on fait, oui, des ateliers, des formations, des ateliers de partage et d'entraide, un truc qu'on appelait le chemin numérique, où on commence par proposer aux gens de venir démonter d'abord un ordinateur, puis on va le remonter, puis ça va marcher, on va faire ça ensemble. Le tout toujours dans une optique d'entraide et de partage, avec les principes qui sont ceux du libre et les nôtres aussi. Donc d'accord. Ça, c'est les activités historiques, en fait.
Ouais. Alors Isabelle. Pardon, ouais. Je voudrais parler à Isabelle. Vous agissez dans votre association pour l'inclusion numérique. Je me suis inscrite à un endroit où ça m'a rien apporté pour l'instant, mais j'y suis et puis j'y reste. Cela pourrait vous intéresser aussi. Cela se nomme aptic.fr, aptic.fr, comme aptitude pour les technologies de l'information et de la communication.
Ouais.
En deux mots vite fait.
Oui, je vois ce que c'est, Joyce. Je vois ce que c'est.
En deux mots vite fait, Aptic n'a pas encore suffisamment d'informations sur les logiciels libres. Et bien entendu, c'est un message pour peut-être plus tard communiquer avec eux sur des questions autour du libre dans leur questionnaire d'introduction, leur questionnaire de quand on s'inscrit, on répond à, je sais pas, peut-être 200 questions. Faire un peu plus la part belle pour le libre, parce que j'ai dû répondre non à un tas de questions qui concernaient des logiciels non libres, alors que je connais leur équivalent libre qui n'était pas cité. Voilà, ça m'a un petit peu frustrée.
Je comprends, Joyce, mais tu vois, déjà le terme pour moi d'inclusion numérique, je sais qu'on nous met beaucoup dans cette affaire-là, puis on nous met dans ce grand mot valise, dont personnellement je me méfie comme de la peste. On se vit pas, en Tanac en tout cas, comme des véhicules pour faire de l'inclusion numérique et pour forcer encore plus que ne le font déjà les politiques et autres institutions à ce que tout le monde soit tout le temps sur le numérique et que c'est vachement bien, c'est super, faut y aller. On n'est pas là-dedans. On est vraiment sur la question de que les gens y arrivent à le faire avec discernement. Ça veut dire que justement, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de dire aux gens, il y a d'une part les injonctions. Ok, vous êtes obligés pour les impôts maintenant. Non, d'accord, on va faire ça. Mais ensuite, sachons ce que nous faisons. Choisissons ce que nous voulons faire. Choisissons là où on dit oui, là où on dit non, pour revenir à ce que disait Véronique. C'est-à-dire, vraiment, notre idée, elle est de donner un maximum ou soutenir un maximum de recherche sur le discernement qu'on peut avoir en utilisant tel GAFAM ou tel, tel site ou telle façon de faire telle pratique. Donc, inclusion numérique, oui mais non. Alors, je dis pas non toujours, hein, quand il s'agit d'aller chercher effectivement une subvention quelque part pour nous aider sur un projet, ok, on va dire que oui. Mais voilà, là, entre nous, à cause commune, je veux dire, c'est pas notre terme de prédilection.
Alors, ce que je vous propose, Joyce,
oui,
excusez-moi.
Oui, la terminologie.
Non, Joyce, excusez-moi.
Par contre, alors, l'objectif de faire passer les gens au libre en leur montrant les avantages aussi sur le plan de la pérennité des données, aussi sur
bien
le
sûr,
plan de aussi sur le plan de la préservation de la vie privée, sur tous ces plans-là, je pense que c'est quand même un message à faire
bien
passer.
Sûr.
À des entreprises comme Aptiq qui sont soutenues par l'État, je crois, depuis 2015, qui sont soutenues par l'État depuis 2015, parce que en passant par eux, en passant aussi par les bonclic.com, on permet à l'information de traverser. On permet à l'information de traverser de manière horizontale. Voilà. Par ailleurs, est-ce que je peux prendre la parole ?
Bah, en fait, depuis 3 minutes, j'essaie de prendre la parole pour dire qu'on va faire une pause musicale pour permettre aux gens de respirer.
Ouais, il faut que les gens respirent.
Alors, on est obligé. Mais enfin, si tu veux pas faire de pause musicale, si tu veux, tu peux aussi raccrocher et revenir un autre jour. Enfin, j'en sais rien, mais les gens à la radio, ils ont besoin aussi de pause éventuellement pour bien assimiler ce qui est dit. On reviendra sur ce sujet-là.
Combien de minutes à peu près ?
Eh bien, écoute, tu écoutes la pause musicale et tu verras. Donc, on va écouter The
Last
of the
World. Non, mais c'est parce que je suis sur la montre. C'est pour ça.
On va écouter The Rest of the World par The Imaginary Suitcase. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, cause-commune.fm. In the comfort of a love that has not made us cry, nursing this new love with the tenderness and care that you would give to a newborn child. We've been flying for a while on the silken wings of a love that has not yet been tried, oblivious and blissfully unaware whether this love may stand the test of time. Someday, at some point, one of us will tell a white lie, and from that moment on, it will only go downward. But right now, there's no such thing as the rest of the world. Look at us, we have it all, and we know we should feel so lucky, like we got a new toy. We just laugh and see the day. How could anything go wrong? How could it go wrong? Someday, at some point, one of us will be unkind, and from that moment on, it will only go downward. But right now, there's no such thing as the rest of the fall to the point of absurdity. You and I live in a bubble where the sun is never setting, where we are free. Someday, at some point, one of us is bound to go wild, and from that moment on, it will only go down. Such thing as the rest of the world. Right now, there's no such thing.
d'écouter The Rest of the World par The Imaginary Suitcase, donc artiste disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, CC BY. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org, et sur le site de la radio, causecommune.fm. Je précise que The Imaginary Suitcase, c'est Laurent Lémans, un artiste belge que nous avons reçu dans Libre à vous du 21 avril 2020. C'est l'ancien chanteur de groupe Kaylimos, pour lequel nous avons déjà diffusé de la musique libre, donc je vous invite à écouter le podcast. Alors je sais pas, j'entends énormément de bruit dans le casque, j'espère que ce n'est pas diffusé à l'antenne. Donc vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous discutions donc avec Isabelle Carrère d'Antanac et Joyce Marcol de l'atelier Orditux Informatique. J'ai d'ailleurs indiqué les sites web. Donc Antanac, c'est antanac.com avec un K Antanac, et Orditux, c'est orditux.org. Alors nous parlons de reconditionnement pour la réutilisation, conditionnement de informatique pour la réutilisation. Donc juste avant la pause, il y avait une discussion entre Joyce et Isabelle. Je crois que Joyce, tu voulais poursuivre. Vas-y.
Alors, il y a longtemps de ça, ce que je voulais au départ, c'est que ce soit simple et que ça marche. Ensuite, quelques années plus tard, je me suis retrouvée avec des personnes qui voulaient aussi la même chose, mais qui ne savaient pas trop comment. Par la suite, je me suis rendu compte que ce que je voulais et ce que j'avais, ça marchait aussi pour d'autres. J'ai commencé en 2009 à apprendre à reconstruire des systèmes. En 2011, ça a mené à la création d'un site collaboratif qui se nomme, pardon pour le gnou qui est manquant, qui se nomme linuxvillage.org. Sur ce site, on peut trouver les entrées vers un forum, vers des téléchargements, vers de la documentation. Je contribue par la reconstruction de systèmes en les rendant plus légers pour les ordinateurs tout en les conservant simples. J'avais découvert que léger, ça existait, mais c'était pas simple. Du moins, moi, je trouvais à mon niveau que ça n'était pas simple à l'époque. Facile, je trouvais que ça existait, mais que c'était pas léger pour les ordinateurs. J'ai voulu que ce soit les deux. Ça a donné une recette, Bento Open Box. Et Bento Open Box, c'est simple et c'est rapide. Donc tout le monde peut se procurer les versions.
Mais
à partir du téléchargement. Et l'intérêt, donc, que tout le monde puisse se le procurer, c'est que les associations peuvent l'avoir, les particuliers peuvent l'avoir, toutes les personnes qui souhaitent le tester et l'utiliser peuvent l'avoir, et c'est largement diffusé maintenant.
Okay. Merci Joyce. Vas-y Isabelle.
Ouais, excuse-moi Fred. Oui, je voulais réagir juste parce que ce que dit Joyce là, c'est génial, à condition que les gens soient déjà dans l'optique d'aller chercher et de savoir ce qu'ils vont chercher là sur le libre. Donc en fait, des gens qui sont déjà peu ou prou engagés dans cette démarche et ou qui s'interrogent. Et
tout
du coup,
fait.
ce que j'ai trouvé très intéressant dans la période que nous venons de vivre, c'est que nous avons à Antanac, en un mois et demi, deux mois, donné autant d'ordinateurs presque qu'en une année. Grâce entre guillemets au fait que la continuité pédagogique aidant tous les enseignants et l'éducation nationale, etc., ça doit donc demander à chaque enfant, chaque jeune, chaque étudiant d'avoir un ordinateur et puis bien sûr une caméra pour pouvoir suivre les choses. Et du coup, on s'est retrouvés, ils se sont retrouvés tous à dire que, bah oui, bien sûr, ça allait marcher très bien, sauf qu'il y avait un manque d'équipement phénoménal. Et nous avons pu, pourquoi je dis ça là maintenant, c'est que, donc, avec nos petits ordinateurs reconditionnés, avec dessus une distribution libre, nous avons pu inonder, entre guillemets, c'est pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, Joyce, de « il faut faire connaître », etc. Nous, on est assez pragmatiques à Antanac, et là, on a été très contents, en fait, d'inonder notamment le 18e arrondissement, mais aussi au-delà, dans les familles, d'ordinateurs de poste qui sont libres. Parce que quand on venait passer, les gens venaient chercher l'ordinateur qu'on leur donnait, on passait une petite demi-heure à expliquer. Donc, je raconte l'histoire là des trois frères. Il y avait Apple, il y avait Microsoft, puis il y avait les autres. Et puis, voilà. Et donc, on raconte, on explique, on démontre. Et là, les gens, tout de suite, accrochent. Et il n'y a pas de souci. On n'a pas eu de retour. On a eu quelques personnes personnes qui ont dit « Ah, ça, comment ça marche ? J'ai pas compris. » Bon, très bien. « Ah, on me demande vraiment d'utiliser Zoom. Est-ce qu'on peut ?» Bon, oui, tu peux. D'accord, ok. Voilà. Donc, mais on n'a pas eu de refus. On n'a pas eu de « Ah, ben non, ça marche pas. » On n'a pas eu tout ça parce que c'est simple. Parce qu'en fait, c'est simple maintenant. Je te rejoins. Il y a eu une époque où c'était peut-être moins simple, où il n'y avait pas toutes les interfaces graphiques que nous avons maintenant et où donc il fallait, on a pu penser à une époque que c'était simplement pour des libristes ou simplement pour des geeks ou simplement des informaticiens, des informaticiennes. Ça n'est plus le cas. Donc je pense qu'on est sur un autre terrain maintenant sur lequel on peut se battre. Il faut y aller, quoi.
Alors, Isabelle, je voudrais. Joyce, je pourrais poser une question ?
Oui.
Après tout, je peux vous laisser aussi, hein, c'est, il n'y a pas de problème. Parce que je vous ai signalé qu'il nous restait 10 minutes, il y a déjà 2 minutes, donc le temps file. Il y a des sujets qu'on n'a pas encore abordés. Mmh. Et je voulais revenir sur, par rapport à ce que tu venais de dire, Isabelle, la question pour vous deux. En introduction, tu as parlé notamment, alors je sais plus quel terme tu as employé, mais des problématiques des personnes qui, mais en fait, n'étaient pas, ne savaient pas, en fait, utiliser un ordinateur, ce qu'on appelle l'illettrisme numérique. Et ma question, en fait, à toutes les deux, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment répandu aujourd'hui dans le public que vous voyez et comment concrètement vous faites pour traiter cette question-là ? Alors ouais. Isabelle et ensuite Joyce.
Oui, c'est effectivement très très répandu. Alors et pas simplement parce qu'on est là dans un quartier dit populaire, politique de la ville, etc. Au nord de Paris, je vois bien qu'il y a des tas de gens qui viennent de partout et même à d'autres endroits. On se retrouve avec les mêmes situations quand on parle avec d'autres associations ou d'autres gens qui travaillent un peu de la même façon que nous. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont éloignés. Et alors pourquoi ? C'est parce que ce qui est intéressant, c'est que soit les gens, on va dire, mais tout le monde a un téléphone. Oui, beaucoup de gens, une majorité de gens a maintenant même un smartphone. Sauf que utiliser un smartphone et utiliser un ordinateur, c'est pas pareil. En fait, on fait croire aux gens que c'est pareil parce qu'on essaie de mixer un peu les applications, puis tu fais une application qui est pareille sur le téléphone et sur l'ordi, mais en fait, c'est pas vrai, c'est pas la même chose, c'est pas la même relation physique. Et il y a des tas de gens qui, en plus, se sont fait, entre guillemets, installer des trucs sur un téléphone sans maîtriser. Et c'est ça, c'est ce sur quoi on essaye vraiment de lutter et on continue de lutter là-dessus. C'est il y a une assistante sociale un jour quelque part qui a ouvert une boîte mail pour une personne en lieu et place. La personne elle a même pas son mot de passe. Peut-être même que l'assistante sociale ne l'a plus parce que sur le téléphone, c'est pas grave, c'est tout le temps ouvert, d'accord. Puis le Wi-Fi aussi, il est tout le temps ouvert. Puis la géolocalisation aussi. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Tout ce qu'on essaie de faire là aussi, c'est grâce aussi à l'ordinateur, c'est de remontrer les chemins par lesquels c'est passé et de faire en sorte que les gens se réapproprient leur machin et puissent dire oui ou non à telle ou telle chose. Mais oui, l'illettrisme numérique existe, bien sûr.
Et Joyce, de ton côté ?
Oui, c'est une vaste problématique. Le monde, dans son ensemble, n'a pas eu le temps de s'habituer, de s'adapter. Tout un chacun et chacune, depuis 20, 30 ans ou 40 ans, est surbooké. Ça, c'est la maladie du siècle. On veut toujours en mettre plus dans la liste des choses à faire. Le boulot, la famille, les sorties, et puis faire du boulot dans la maison, et puis bricoler, et puis faire un deuxième job si on peut. Et avec tout ça, beaucoup d'utilisateurs, même qui emploient l'ordinateur déjà depuis plusieurs années, n'ont pas encore trouvé la différence entre le clic gauche et le clic droit. J'ai eu la chance, quand j'ai commencé à 40 ans passés, de tomber sur le bon endroit où c'est la première chose qu'on m'a montrée. Et du coup, je croyais que tout le monde avait appris la même chose, ce qui n'était pas le cas. La majeure partie des individus ne savent pas se servir plus de 2 à 3 doigts pour ou 4 doigts peut-être pour saisir un message ou faire une lettre avec le clavier. Et finalement, tout part des bases qui sont manquantes dans un lieu pour apprendre l'informatique. On vous montre une fenêtre, on vous montre à enregistrer un fichier, on vous montre Word, Excel. Donc vous croyez que vous faites un fichier Word, vous croyez que vous faites un fichier Excel, alors qu'en fait vous pourriez utiliser n'importe quel traitement de texte, ce serait la même chose. Les gens n'ont pas appris sur un principe, ils ont appris sur des recettes. Et ça, c'est bien dommage.
Des recettes et des marques. Parce qu'effectivement, le nombre de gens qui viennent en disant « il faut que je fasse un texte en Word », je dis « de quoi tu me parles ?» Et voilà, et on apprend le terme de traitement de texte, et puis après, on va pouvoir parler d'un tableur, et etc. Mais oui, c'est ça.
Ok, bah écoutez, vas-y, Joyce.
Je voulais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Isabelle a raison de dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'interfaces graphiques et que c'est facile. Vous prenez un bureau simple comme on a chez Ubuntu avec Lubuntu ou dans d'autres distributions avec le bureau Elixir, c'est simple, c'est rapide. Ce que j'ai fait, ça va plus loin. Donc, je vous invite à l'essayer.
Ok, écoutez, merci. Le temps file, il va falloir passer à notre sujet d'après, mais est-ce que, en 1 minute 30 secondes, vous avez des annonces à faire ou tout simplement des projets à annoncer, allez-y.
Ouais, justement, parce que je voulais dire un truc sur, quand même, on a l'air de dire que là, que notre monde est vachement beau, puis que ça marche bien tout ce qu'on fait à Antanac, c'est vrai, mais en même temps, le sujet de base, il était celui que tu avais choisi là pour nous inviter, c'était la question du reconditionnement, donc c'est une partie très très matérielle en fait. Hein. Et du coup, je voulais juste dire un truc, c'est que le frein majeur au développement de cela et les difficultés que nous pouvons avoir, et du coup ça fait aussi un appel pour les gens qui peut-être, les auditeurs, auditrices qui peut-être nous écoutent là, c'est il nous manque du matériel. C'est-à-dire que si vous connaissez une entreprise qui n'a pas encore un contrat, une convention déjà passée avec les gros, les Emmaüs Connect ou les artisans de... Enfin bref, il y a plusieurs grosses structures comme ça qui récupèrent du matériel. On est preneurs, nous, on est demandeurs. Pour le moment, ce sont les PME, PMI de Paris ou d'Île-de-France qui nous donnent leur matériel pour qu'on puisse le reconditionner, le donner pour une nouvelle utilisation, ou des particuliers. Il nous manque du matériel. On doit avoir encore une liste de presque 100 personnes là où on est, qui nous ont fait une demande d'un ordinateur portable avec une caméra, et nous n'en avons quasi plus. On a tout donné, on a relancé des billes, etc. Donc oui, ça c'est une annonce que je peux faire, effectivement, une demande.
Annonce passée, donc c'était Isabelle Carrère d'Antanac. Joyce, en 30 secondes, si tu veux rajouter quelque chose.
Je suis en train de préparer un nouveau projet qui est issu du confinement et qui est issu d'autre chose, de mes expériences. Et ce projet va consister à proposer en ligne et par formation et par cooptation et par bouche à oreille par la suite, un kit modulaire pour que chacun et chacune, même sans connaissance technique, puisse remettre en état son ordinateur elle-même. Elle aura entre les mains tout ce qu'il faut en premier module pour pouvoir faire le diagnostic même sans rien y connaître. Ensuite, ça c'est un travail qui est en cours de route, qui est presque prêt. Le deuxième module, ce seront des ensembles qui seront déjà prêts à l'emploi pour brancher et démarrer sur l'ordinateur. Pas juste des clés USB, mais ça ira beaucoup plus loin. Avec un petit manuel papier pour qu'une personne qui sait lire puisse le faire, qu'une personne qui sait même lire et utiliser un tournevis n'ait pas peur de remplacer ce qu'elle a dans l'ordinateur par un autre chose qui sera prêt à l'emploi.
Ok, merci. Donc c'était Isabelle Carrère d'Antanac, antanac.com, et Joyce Marcol de l'atelier Orditux Informatique, orditux.org. Et je rappelle qu'Isabelle anime également une émission sur Cause Commune, un coin quelque part, donc vous retrouvez les podcasts sur causecommune.fm. Merci à vous et puis passez une belle fin de journée.
Merci à toi, Fred, de cette
merci
opportunité
beaucoup,
et merci à l'April.
Alors, nous allons faire une petite pause musicale. Nous allons écouter Lover's Lane par Sucre Pop. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, cause-commune.fm
93.1.
Pour bien commencer la journée, un peu d'amour, c'est le secret. Moi-même, je t'aime. Rendez-vous sur la route de Lover's Lane. Ouh, c'est l'heure de se réveiller. Ouh, dans le cou, quelques baisers. Et toi, mon soleil, mon oxygène, je t'aime pour toujours. Allons vivre à Lover's Lane. Le silence des cathédrales, le soupir des étoiles, tourne-toi mon idéal, mon amour boréal. passion animale, mon amour maximal.
Écoutez Lover's Lane par Sucre Pop, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions CC by SA, et cette musique douce fait bien du bien. Vous retrouvez les références sur le site de l'April, april.org, et sur le site de la radio causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Alors, nous allons parler avec ma collègue Isabelle Vanni, qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April, de son retour d'expérience sur la recherche d'un outil adapté pour les projets du groupe de travail sensibilisation de l'April. Ben, bonjour Isabelle, et puis je te passe la parole.
Bonjour à tout le monde. Donc, je prends la parole et bien sûr, Fred, tu m'interromps, tu me poses des questions.
Tu as vu, je suis très fort pour interrompre les gens.
Oui, c'est vrai.
Vas-y, Isabella, raconte-nous un petit peu sur ton expérience.
C'est vrai. Donc, en fait, je m'étais, historiquement, on va dire, on a l'habitude dans le groupe de travail sensibilisation d'utiliser un outil qui s'appelle Etherpad. Il s'agit d'un éditeur de texte collaboratif. En gros, c'est une page web. On peut s'y connecter depuis son navigateur. Et dès qu'on arrive sur la page, en fait, on peut directement taper dedans. La seule manip qu'on demande aux personnes qui souhaitent contribuer à ces pages collaboratives, c'est de préciser son nom ou son pseudo. Ce qui permet en fait d'identifier facilement qui écrit, parce que chaque personne connectée en fait est identifiée par une couleur différente. Voilà, c'est la seule manip qu'on demande. Pourquoi ? Parce que si on n'écrit pas son pseudo, ce qu'on écrit en fait c'est anonyme. Et mettons que il y a une bonne idée qu'on veut approfondir, ou alors mettons qu'on a besoin d'une source ou d'une référence qui n'est pas présente dans la page. Bah, si on ne sait pas qui a écrit, c'est un peu dommage parce qu'on ne peut pas solliciter la personne ultérieurement. Voilà, normalement c'est tout. Après, il faut juste utiliser son clavier et apporter ses contributions.
Bah, c'est simple en fait. Où est le problème, Isabella?
Alors, l'utilisation de l'outil, donc on a dit le nom du logiciel libre qui est Etherpad. Quand on ouvre une page, en fait, on l'appelle pad. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un « ouvre ce pad », je ne trouve plus le lien du pad. Voilà, quand on dit pad, c'est vraiment la page qu'on ouvre grâce à ce logiciel. On peut aussi parler de bloc-notes pour utiliser un terme alternatif. L'utilisation telle que je l'ai décrite, ça paraît plutôt simple. Ça se complique en fait dans le cas d'un document particulièrement long, un document qui va prendre plusieurs lignes. En fait, ce qui est intéressant dans l'Etherpad ou dans la page qui est créée grâce à l'Etherpad, c'est que chaque ligne est numérotée, ce qui est très pratique parce que comme ça, on peut dire aux personnes qui contribuent à un projet, j'ai mis une modification, on va voir à la ligne, je sais pas, 37, qu'on peut facilement s'indiquer où aller dans le pad. Et il se trouve que à présent, le groupe de travail sensibilisation, travaille sur deux projets, le quiz, un jeu de l'informatique et le jeu coopératif Jeu du Gnou, qui utilisent tous les deux des pads longs, mais non, c'est un euphémisme, c'est vraiment des pads avec beaucoup de lignes, on dépasse largement les 1000, voire plus lignes. Donc ce qui se passe, c'est qu'une personne qui souhaiterait contribuer, elle arrive sur ce pad et elle est un peu perdue. Parce que le pad, donc le logiciel qu'on utilise aujourd'hui, en fait, a une mise en forme très basique. C'est-à-dire qu'il est possible de mettre un texte en gras ou en italique. Il est possible aussi d'utiliser des titres, mais on peut pas faire beaucoup plus. Ce que je veux dire, c'est que même si écrire dans un pad est facile, naviguer dans le pad tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est pas du tout évident. Et je m'en suis rendu compte, en fait, quand j'ai sollicité des personnes pour participer à nos projets. Suite à des ateliers, par exemple, du jeu du Gnou, on a fait des ateliers notamment lors du Ubuntu Party à Paris en novembre 2019. Donc, l'Ubuntu Party, c'est un événement organisé par Ubuntu FR. Et donc la distribution GNU Linux Ubuntu. Et suite à ces ateliers Jeux du Gnou, j'avais des personnes très enthousiastes de ce jeu qui avaient envie de contribuer, qui m'ont dit écrivez-moi, j'ai envie de faire ma part, d'apporter ma pierre à l'édifice. Et une fois envoyé le lien du pad, j'ai plus vu personne. Du coup, je me suis posé une question. Je me suis dit mais peut-être qu'on utilise un outil. Et on se rend même pas compte, nous, qu'on l'utilise tous les jours, quand même assez régulièrement, on se rend même pas compte que c'est pas si évident que ça, finalement, pour les autres. Donc, j'ai demandé un peu de retour d'expérience à des personnes qui connaissaient pas, nos documents de travail actuels. Et, comme vous savez, j'aime bien dire les citations parce que c'est plus parlant. J'ai noté, pour l'instant, c'est effectivement le volume du projet avec des liens partout qui me fait un peu peur. Donc voilà une personne qui a décidé de ne pas contribuer et elle a donné ses raisons. Ou bien j'avoue que je n'ai rien compris sur le pad classique, ou encore il est difficile de passer d'une section à l'autre du pad. Voilà, donc j'ai eu ma réponse, ou bien j'ai eu une confirmation. Quand c'est trop long et quand il y a des liens partout, l'Etherpad classique, on va dire la version qu'on utilise aujourd'hui à l'April, n'est pas l'outil le plus adapté pour attirer de nouvelles personnes contributrices. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, voir s'il y a d'autres outils qui peuvent répondre à nos besoins, voir ou éventuellement faire évoluer l'outil qu'on a aujourd'hui, en sachant que les besoins qu'on a identifiés sont la facilité d'utilisation, comme je disais tout au début, la facilité de navigation, c'est-à-dire la possibilité de retrouver l'information facilement, que les personnes ne soient pas frustrées et qui restent sur le pad, et aussi une mise en forme agréable, parce que les personnes aujourd'hui sont habituées à aller sur le web et voir des jolies pages avec une jolie mise en forme, avec beaucoup d'images. Et c'est vrai que la version actuelle du pad de l'April peut être vue comme un peu brute, on va dire un peu tristounette. Donc, si on veut attirer de nouvelles personnes contributrices, il faut agir aussi là-dessus. Et donc, grâce à l'aide de personnes du groupe de travail sensibilisation, mais pas que, j'ai sollicité d'autres membres actifs et actives de l'April qui m'ont donné des billes, des possibles outils alternatifs, notamment CodeIMD et CryptPad. Donc, les deux sont des éditeurs de tests collaboratifs. Et donc, j'ai créé, grâce à ces retours, j'ai créé un comparatif pour avoir les idées un peu plus claires. Et je pense que finalement, la solution la plus simple sera celle de garder l'Etherpad qui a, disons qu'une version plus récente d'Etherpad est récemment sortie, ce qui permettra normalement de meilleure navigation, notamment parce que il y aura la possibilité de mettre des liens hypertextes et j'espère aussi des encres. Donc peut-être que ça peut être utile d'expliquer ce que c'est un encre. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui.
Ah ben c'est un truc génial que j'ai. En fait, je vais vous expliquer. C'est très simple. C'est juste le mot qui est spécifique. Quand vous pouvez mettre des liens hypertextes, c'est-à-dire que vous sur une page web, vous pouvez intégrer un lien dans un texte de façon que si vous cliquez dessus, il y a une autre page web qui s'ouvre. Et ben l'encre, en fait, ça marche à peu près de la même façon, sauf que au lieu de mettre le lien à une autre page web, vous mettez le lien à un lieu précis dans la même page. En gros, l'encre, c'est comme si je mettais un marque-page dans un document, et après, j'ai mis un lien qui me permet, si je clique dessus, d'arriver directement dans le lieu que j'avais indiqué précédemment. Donc, tout ça pour dire que ça permet vraiment de faciliter énormément la navigation. Et j'espère aussi qu'il y aura la possibilité d'ajouter une table de matière. Donc, j'ai pas encore vu si la nouvelle version d'Etherpad la contient déjà par défaut. Mais ce qui est vraiment intéressant avec Etherpad, c'est que c'est un logiciel qui est très utilisé, qui plaît beaucoup, et du coup, il y a énormément de personnes qui y contribuent. J'ai vu qu'il y a plus de 270 plugins, c'est-à-dire de fonctionnalités complémentaires qu'on peut installer, en fait, pour ajouter des fonctionnalités, donc pour personnaliser, pour augmenter les performances de son pad, on va dire. Et du coup, j'espère que soit il y aura la table de matière intégrée dans la nouvelle version, ou bien soit qu'on pourra l'ajouter par le biais d'un plugin. Voilà, je parlais beaucoup, mais peut-être que tu as une question pour moi.
Alors, j'ai pas de question parce que ça me paraît très clair. Je vais juste préciser que donc ton comparatif, les références sont sur le lien et sur le site april.org et sur le site causecommune.fm. Et j'ai aussi précisé que on en a déjà parlé la semaine dernière, mais on en reparlera la semaine prochaine dans les émissions au cœur de l'April. Notre organisation concernant l'émission Libre à vous se fait de façon publique justement sur des blocs-notes. Alors, il y a deux blocs-notes principaux. Donc, je viens de vérifier, ils font chacun 1200 lignes. Il y en a un sur uniquement les musiques et l'autre sur l'organisation générale. Alors en plus, on a des pages wiki où on formalise un peu plus la documentation. Donc on espère effectivement que, comme tu viens de dire, avec la nouvelle version d'Etherpad, avec une table des matières et puis des encres, c'est-à-dire la possibilité de faire des liens d'un endroit à l'autre dans la même page, ça permettra effectivement de faciliter la contribution, parce que ce qui est le plus important évidemment pour nous, c'est de faciliter la contribution de personnes extérieures, ne serait-ce que par exemple pour proposer des musiques libres. Et dernier point, les personnes qui voudraient tester le pad actuel peuvent aller sur le site chapril.org dont on a parlé tout à l'heure, donc notre site qui propose des services libres et loyaux, dont un bloc-notes. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose?
Non, je pense qu'on a tout dit, mais voilà, cette recherche que j'ai faite pour le groupe Sensibilisation, s'il pourra servir à d'autres projets au sein de l'April, j'en serai ravi.
Eh bien écoute, super, on va préciser que toute personne est la bienvenue au sein du groupe Sensibilisation de l'April. Vous allez sur april.org et vous pouvez rejoindre la liste de discussion. Donc c'était la chronique de ma collègue Isabella Vanni, qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Mais écoute, bonne fin de journée Isabella.
Merci, bonne fin de journée à vous aussi.
Alors, nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Je regarde le temps qui me reste. Alors, on y va. D'abord, un rappel aux membres de l'April. Nous organisons notre Assemblée Générale décentralisée ce samedi 27 juin 2020 à 14h. Donc, toutes les informations utiles sont disponibles dans votre espace membre. Et évidemment, suite à la condition sanitaire en France en mars 2020, nous n'avons pas pu organiser notre Assemblée Générale. Donc, elle a lieu ce samedi, mais en mode décentralisé. La fin de la saison 3 de Libre à vous approche avant la pause estivale. Donc, tout simplement, période de bilan, de préparation de la saison 4. Donc n'hésitez pas à contribuer. On vient juste de parler de bloc-notes. Alors vous pouvez y voir sur le bloc-notes de 1200 lignes, mais vous allez peut-être pas vouloir contribuer. Donc n'hésitez pas tout simplement à nous envoyer un courriel ou nous contacter sur le salon web de la radio. On a besoin de vos retours. Expliquez-nous ce qui vous plaît dans l'émission, les sujets, les chroniques, les points de vigilance, les points d'amélioration, des suggestions pour la saison 4, de manière à ce qu'on puisse démarrer la saison 4 en septembre en beauté avec vos contributions. Jeudi soir, Isabella anime, donc jeudi 25 juin 2020, une réunion à distance du groupe Sensibilisation. Donc toutes les informations sont sur april.org et toute personne peut participer, que vous soyez membre ou pas de l'April. Alors ça, c'est des annonces un peu April émission de radio. Deux actus importantes récemment autour d'Internet. Donc le premier, c'est la loi CyberN, la loi portée avec brio. On rire, il faudrait des jingles rire des fois. Donc portée par Laetitia Avia, qui a été très largement censurée par le Conseil constitutionnel. Le Conseil a en effet déclaré contraire à la Constitution la quasi-intégralité de la loi de lutte contre la haine en ligne, excusez-moi. Et au-delà de sa décision, le Conseil constitutionnel refuse le principe d'une censure sans juge dans un délai imposé d'une heure ou de 24 heures, comme le prévoyait la loi. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site de la Quadrature du Net, laquadrature.org, et sur le site de nextimpact.com, où il y a un excellent article de Marc Ress. Toujours au niveau numérique, le Health Data Hub, la plateforme d'exploitation des données de santé de patients et patientes français. On avait parlé des problèmes posés par cette plateforme dans le Libre à vous du 28 janvier 2020. Et bien, suite à un dépôt référé liberté par un collectif d'organisations, le Conseil d'État ordonne au Health Data Hub de se mettre en conformité avec la CNIL, donc la Commission Nationale Informatique et Liberté, et d'informer les personnes que leurs données peuvent être transférées aux États-Unis. Donc plus de détails sur le site du CNLL, cnll.fr. Il y a un communiqué de presse et je crois qu'il y a le lien vers la décision du Conseil d'État. Et pour tous les autres événements, vous allez sur le site de l'Agenda du Libre, agendadulibre.org. Donc notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Véronique Bonnet, Isabelle Carrère, Joyce Marcol, Isabella Vanni. Aux manettes de la régie, aujourd'hui, William Agasvari, qui anime les émissions Et pour cause et cyberculture sur la radio. Merci également à Sylvain Kutzmann, Antoine, Olivier Grieco, qui s'occupe de la post-production des podcasts. Également, un merci à Quentin Gibault, qui fait la découpe des podcasts. Vous retrouverez sur le site web april.org et sur le site causecommune.fm une page avec toutes les références utiles. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faites connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 30 juin 2020. Notre sujet principal portera sur l'April avec la deuxième partie de Au cœur de l'April. Des personnes actives au sein de l'association parleront de nos actions, de notre fonctionnement pour vous expliquer comment fonctionne l'April. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 30 juin et d'ici là, portez-vous bien.